RFI. Grand reportage.
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex ravageait les vallées de l'arrière-pays niçois, la Roya, la Vésubie et la Tinée. Près d'un an plus tard, la vie dans la Roya, la plus touchée par la catastrophe, est loin d'être revenue à la normale. Si la route départementale qui circule au travers des 5 villages côté français se répare progressivement au prix d'efforts considérables, celle qui relie la France à l'Italie reste fermée. Le poumon touristique de la vallée, la vallée des merveilles, reste très difficile d'accès. Un an après Alex, quelle reconstruction pour la vallée de la Roya ? C'est un grand reportage de Pauline Bandelier.
À partir de juste un peu plus haut, là, 100 mètres, il y a un feu rouge qui permet de passer à la demi en montant et à l'heure pleine en descendant. Mais en semaine, c'est complètement fermé dans les deux sens, l'après-midi et le matin. Il faut être à 7h30 ici pour pouvoir monter dans la vallée de la Roya, sinon on ne peut monter qu'à midi et demi. Et après, le suivant, c'est 17h30. Et après, c'est 18h30, 19h30, 20h30, etc. jusqu'au lendemain matin, ou en semaine, après, à 7h30, c'est fini. Et ils bossent, ils ont leurs engins là. Voilà. Et en week-end, par contre, c'est toutes les heures et demie, on peut monter, et toutes les heures pleines, on descend. Mais on ne peut pas croiser, c'est pour ça, on monte en convoi.
Près d'un an après la tempête Alex, qui a endommagé 35 km de route, dont l'axe routier principal de la vallée, la RD6204, les habitants se déplacent toujours avec beaucoup de difficultés. Routes arrachées, terrains dévastés, carcasses de voitures ou maisons défoncées par le passage de la tempête témoignent de l'ampleur de la catastrophe. Chaque mois, 5 millions d'euros sont investis pour réparer les quelques 120 brèches béantes sur la voie. La ville de Tende, située tout en haut de la vallée, s'est retrouvée particulièrement isolée. Si le cœur historique de ce joli village situé à flanc de montagne a été préservé, les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone ont été arrachés. La piscine, également emportée, n'a pas encore été reconstruite.
Va bene, poi volle del alors antimite, non, come si chiama quelle bestioline che vanno nella roba.
Née à Tende, alors italienne, Bruna est devenue française en 1947 à 20 ans. Du haut de ses 90 printemps, elle continue de tenir son magasin de quincaillerie dans ce village, situé à 800 mètres d'altitude, à une quinzaine de kilomètres de l'Italie. Les représentants italiens à qui elle passe commande ne se déplacent plus depuis la tempête. Sa fille, Catherine Renaudot, l'aide à passer commande sur Internet.
Il faut une journée pour venir, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts, la route.
C'est pas satisfaisant, parce qu'elle est obligée de passer par moi, parce qu'elle ne maîtrise pas Internet. Donc on est en ligne, on voit des petites images. Moi, je ne sais pas bien, on n'a pas l'information qu'a un représentant qui connaît son stock, qui sait ce qui se vend. Avec un représentant, il y a un conseil. Ce conseil, on ne l'a plus.
Depuis le 31 août dernier, l'avancée des travaux a permis aux automobilistes de circuler à nouveau dans la vallée tout au long de la journée, des feux de circulation leur permettant de rouler en alternance. Ainsi, Bruna peut de nouveau recevoir la visite de représentants italiens. Mais d'autres commerçants n'ont pas eu sa patience et ont préféré partir. Sur les 5 restaurants de la ville de Tende, 3 ont fermé, de même que la pharmacie. Depuis octobre dernier, le village a perdu plus de 400 habitants sur 2000. L'un des secteurs les plus touchés est celui du tourisme, dont vivent une part importante des habitants de la vallée. Le hameau de Casterino, porte d'entrée du site archéologique de la Vallée des Merveilles, reste toujours inaccessible. Originaire de Tende, Charlie Busnet est guide professionnel et membre de l'association Merveilles Gravures Découvertes, qui regroupe une quinzaine d'accompagnateurs en montagne, délégataires de la concession de services publics auprès du Parc national du Mercantour.
Nous, en Roya, on a plus ou moins perdu quand même nos accès à la montagne, les accès à 1500 mètres. On peut y accéder par des pistes, donc ça met beaucoup de difficultés pour que les gens arrivent et pour que nous allions travailler, mais on y va quand même. On a perdu environ un tiers de nos journées de travail. Et puis après, évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent dans la Roya, donc les accès en Vésubie ont été peut-être moins impactés et puis restaurés aussi plus vite de l'autre côté. Donc l'accès à Casterino et l'accès au lac des Mèches font défaut, ouais. Ça, c'est un gros problème.
De son côté, le président de l'association Merveilles Gravures Découvertes évoque pour 2021 un chiffre d'affaires et une fréquentation en baisse d'environ 60% par rapport à 2020 pour l'ensemble des guides. Un manque à gagner compensé très partiellement par les aides publiques. À la crise économique s'ajoute le traumatisme lié aux disparitions, 9 morts et 9 disparus dans l'ensemble des trois vallées, dont 3 morts et 3 disparus également dans la seule Roya. Véritable mémoire de la vallée, Jean-Baptiste Molinari a notamment connu l'occupation allemande. Il a été durement marqué par la catastrophe. Si sa maison a été préservée, son terrain rempli de vergers a été totalement emporté, de même que ses animaux. C'est le cas pour beaucoup d'habitants de la vallée.
J'avais 300 arbres, ils sont tous partis. C'est un peu une partie de moi-même qui est partie. J'ai un copain qui a perdu la moitié du troupeau et le frère qui était handicapé, il est parti avec la crue. Et la moitié du cimetière de Saint-Dalmas a été emportée. Les caveaux, les tombes, tout a été emporté. Je crois que je ne verrai pas la reconstruction vu l'état de la vallée. Je l'ai faite la semaine dernière, j'en croyais pas mes yeux. Les ponts arrachés et tout, pendant l'occupation et tout, on a moins souffert que par ce déluge.
Lundi 12 juillet, c'est l'ouverture du festival Passeurs d'humanité au son de la chorale des habitants de la Roya, Rumpa Baliti. Ce festival, né il y a 4 ans de la solidarité envers les populations migrantes, a choisi cette année pour thème la reconstruction de la vallée. L'occasion également de revenir sur les causes de la tempête avec le géologue Christian Gorini qui étudie les causes de la tempête Alex dans le cadre du projet STORY, un groupe de recherche interdisciplinaire à l'Université de la Sorbonne.
On n'a pas de réponse pour le moment sur cet événement qui est une conséquence à la fois climatique générale avec la tempête Alex, mais aussi des événements méditerranéens qui sont assez connus et qui ont fait qu'il y a beaucoup d'eau qui est tombée et beaucoup de sédiments surtout qui ont été mélangés à cette eau. Et c'est l'eau plus les sédiments qui ont créé des courants de très grande densité, hein, même des laves torrentielles, ce qu'on appelle des laves torrentielles, c'est vraiment un matériel qui n'a pratiquement pas d'eau, qui est essentiellement du sédiment, plus de 60% de sédiments dans ces écoulements. Et c'est ça qui a provoqué la destruction des ponts, des architectures, des champs, qui a entraîné aussi la mort de personnes.
Un événement qui, selon l'hydrologue Pierre Brégode, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, est en partie lié au changement climatique, qui, en favorisant l'augmentation de la température, augmente aussi la quantité d'eau dans l'atmosphère et par conséquent l'ampleur des épisodes pluvieux.
Donc les épisodes dans le futur seront plus violents et potentiellement plus fréquents aussi dans le temps. Et cette quantification, elle est très difficile parce que ce que j'explique souvent en cours à mes étudiants, si on doit discuter de à quel point la tempête Alex et sa conséquence ici sur la Roya sont rares, on est vraiment le loto là, c'est ça? J'ai une grande vase ici avec plein de boules. Il y a la tempête Alex qui est une boule noire au milieu de 1000 boules rouges par exemple. Et donc chaque année, en gros, je tire une boule et j'ai un épisode plus ou moins fort. Et le changement climatique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer cette urne, et au lieu d'avoir une boule noire, je vais peut-être en avoir 3 ou 4.
Nommé le 14 octobre dernier en Conseil des ministres pour suivre et coordonner la reconstruction des vallées, le préfet Xavier Pelletier insiste sur l'importance d'une reconstruction durable qui prenne en compte ces aléas climatiques.
On se rend compte, notamment par rapport au lit des rivières, qu'entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e, il y a eu très très peu d'inondations, il y a eu très peu de crues torrentielles. Donc finalement, le lit des rivières s'est rétréci, la végétation a repris ses droits et finalement l'homme a été un petit peu imprudent et a réinvesti les bords des rivières, etc. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a, vous l'avez vu, des lits de rivières qui sont extrêmement larges, avec des fonctionnements en tresse, hein, où finalement la rivière divague, elle dépense son énergie, elle dépose ses matériaux. Et c'est comme ça qu'il faut envisager cette reconstruction. On ne reconstruira pas contre l'eau, mais avec l'eau.
Reste, près d'un an après le passage d'Alex, beaucoup d'interrogations des habitants sur la reconstruction, certains regrettant de ne pas être consultés sur les choix qui sont faits. Parmi eux, Alain Simon, qui avant la tempête gérait un gîte à Saint-Dalmas-de-Tende et effectuait des randonnées en chien de traîneau à Castérino. Son activité est à l'arrêt depuis octobre dernier et il craint de devoir patienter jusqu'à l'été 2022 avant de pouvoir envisager une reprise.
Et on s'aperçoit que les travaux avancent et qu'il y a forcément des décisions en termes d'infrastructures qui sont prises, mais sur lesquelles personne n'a été consulté. Et j'ai l'impression que même les élus, eux, ne sont pas au courant non plus. bon, pas beaucoup plus que nous, ou qu'en tous les cas, ils communiquent pas trop, parce que quand ils s'avancent en disant telle piste va être ouverte à la fin du mois, ben on leur fait comprendre que non, ça sera pas à la fin du mois, puis ça sera peut-être une autre piste qui sera ouverte. Et là, on sent bien qu'ils n'ont pas la main, quoi, sur la reconstruction.
Le jeune maire, les Républicains de Breil-sur-Roya, Sébastien Ollaran, devenu conseiller départemental en juin 2021, a de son côté choisi de s'adresser chaque mois à ses concitoyens.
Je sens que les gens ont vraiment besoin d'avoir des informations. Je pense que les gens ont besoin de se projeter, ont besoin de savoir où ils vont. S'ils n'ont pas de perspective, eh bien, ils vont tout simplement partir s'ils ne se voient pas d'avenir dans la vallée de la Roya. Donc notre rôle d'élu, c'est de faire en sorte de rassurer au maximum les populations, leur donner les informations sur ce qui est en train d'être fait, sur ce qui va être fait, leur donner des calendriers, aussi imprécis soient-ils, parce que c'est vrai qu'avec les chantiers, on a toujours des surprises. Puis il y a aussi des chantiers qui ne dépendent pas des mairies, hein, donc c'est aussi aux autres collectivités de communiquer à destination des populations. Je pense en effet que c'est essentiel et qu'il y a sans doute là aussi des progrès à faire.
L'un des enjeux qui mobilise depuis plusieurs années les associations, le train Nice-Turin. Une ligne de chemin de fer qui relie deux pôles économiques très importants et qui a compté jusqu'à une douzaine de trains quotidiens, mais qui, avant la tempête, mourait à petit feu. Un état de fait lié notamment aux tensions entre la France et l'Italie. Depuis les années 70, l'Italie a en effet la charge exclusive du coût d'exploitation de la ligne, au titre des dommages de la Seconde Guerre mondiale. Une situation aux lourdes conséquences, explique Michel Brown de l'association Via Europa, lors d'une visite guidée du musée du train de Breil-sur-Roya.
Un beau jour, la SNCF est allée faire concurrence en Italie au TGV italien. Et à partir de ce moment-là, ça a été la rupture. Au début des années 2000, ils ont décidé de ne plus payer leur quote-part. À partir de ce moment-là, la SNCF a dit « Ah ben, si vous ne payez plus, on met la ligne dans une situation, disons, de préservation et on limite les trains à 40 km à l'heure. » Là-dessus, la région Piémont a réduit de 12 allers-retours à 2 seulement, en disant « Nous, des trains à 40 à l'heure, ça ne nous intéresse pas. » Puis petit à petit, bon, les voyageurs ont disparu puisqu'il n'y avait plus de service, et on est arrivé à la veille de la tempête Alex à une situation un petit peu particulière qui allait conduire à la quasi-fermeture de cette voie ferrée.
Suite au passage d'Alex, un fonds d'urgence de 20 millions d'euros a été débloqué pour réparer les dégâts causés par la tempête sur la ligne de chemin de fer. Grâce à cet investissement, la ligne a pu être rétablie le 3 mai dernier. L'accord franco-italien est également en train d'être renégocié pour que les frais soient mieux répartis entre la France et l'Italie. Reste qu'après des décennies d'abandon, il faudra beaucoup d'investissements et de temps pour redonner un niveau de service satisfaisant à une ligne qui roule toujours à 40 km/h, parfois moins, et propose seulement 3 allers-retours par jour. Alain Simon, qui soutient un projet de téléphérique comme moyen touristique et écologique de relier Castirino, se dit peu rassuré pour l'avenir du train. À ce jour, en effet, l'essentiel des financements se focalise sur la route.
Moi, j'avais l'utopie d'imaginer qu'Alex aurait pu servir d'outil pour pouvoir réfléchir différemment. C'est très vite la route, donc peu importe comment, pourquoi, mais vite la route. Par exemple, cette trois voies dans la grande ligne droite de Breil, pour moi, c'est un exemple criant. Quand elle a été construite, il y a des gens qui ont alerté en disant « En élargissant la route, on va contraindre la Roya, donc en cas de crue, il faudra bien qu'elle passe. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a détruit toutes les berges opposées à la route, en abîmant la route quand même. Et cette fois, on l'a reconstruit le plus vite possible et on refait une trois voies. Comme si on ne tirait pas les conclusions des expériences passées.
Face aux interrogations et au besoin de participer aux choix liés à l'avenir de la vallée, le préfet à la reconstruction a promis une réunion d'échange avec les citoyens et les associations de la vallée à partir du mois d'octobre. Une consultation qui, pour la députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, Alessandra Valletta-Ardisson, n'aurait pu avoir lieu plus tôt.
Le faire plus tôt, je vois pas comment. C'est-à-dire, c'est des travaux d'urgence qui ont été faits aujourd'hui. Il n'y a pas de réels travaux, d'aménagement futur de la vallée qui sont en cours. Là, on est vraiment à remettre la route, à remettre le train, à remettre tout ce qui est canalisation d'eau potable, d'eau usée et autres. Donc, on est vraiment dans l'urgence. Les grands travaux de structuration arriveront dans un second temps. Et c'est vrai qu'il est important que la population y soit associée. Et c'est pour ça que, avec l'appui du gouvernement et des différents services, la consultation va être organisée.
Pour apporter une aide d'urgence aux nombreux sinistrés, mais aussi pour tenter de peser sur l'orientation de la reconstruction, Et parfois, pour interpeller les pouvoirs publics, plusieurs associations se sont créées immédiatement après la tempête. Parmi elles, Remontons la Roya, cofondée par Charles Clodo, professeur d'histoire et habitant de Breil-sur-Roya.
Maintenant, on arrive à identifier les hélicos à leur couleur. On est devenu spécialiste en hélicos dans la vallée. Et donc, les hélicos partent d'ici à Breil pour rejoindre la Haute-Roya. En général, leur présence peut être liée aux chantiers aussi, qu'ils apportent des matériaux sur les chantiers difficiles d'accès. Ici, sur la drop zone de Breil, en général, il y a une vingtaine de rotations par jour. Ça a été plus important au lendemain de la tempête, où le seul moyen de rejoindre la Haute-Vallée, c'était l'hélico. Donc là, les gens qui travaillaient, au lieu de prendre le train, montaient en hélico. Maintenant, c'est devenu un bruit auquel on s'est habitué et qu'on voit évidemment plutôt de manière positive. Même si ça fait énormément de bruit, on se dit, bon, les gens sont en train de travailler à la reconstruction.
Et vous, à titre personnel, comment ça vous a affecté la tempête ?
Ma vie a changé depuis ce 2 octobre, puisque bon, ma réaction, ça a été de me jeter à corps perdu dans la solidarité pour aider les gens et à fonder cette association qui maintenant m'occupe pratiquement à temps plein.
L'une des missions que s'est donnée Remontons la Roya, soutenir les porteurs de projets à visée écologique, sociale et solidaire. L'association effectue notamment une veille des subventions, des experts bénévoles aidant à la constitution des dossiers. L'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a notamment accepté de soutenir l'initiative d'un hôtelier qui va lancer des séjours slow tourisme autour du thème de la gastronomie locale. Autre projet, également accompagné par Remontons la Roya, la location de vélos à hydrogène pour circuler dans la vallée, financé par l'hôtel du Prioré à la Brigue. Lydia, elle, vit à Monaco. Depuis la catastrophe, elle se rend dès qu'elle le peut dans la vallée pour participer à la reconstruction. Comme elle, plusieurs bénévoles des associations Week-end Solidaire, Trekker 06, Aide une Vallée ou encore les Demoiselles des Vallées continuent de se rendre chaque fin de semaine dans la Roya. Une solidarité née sur les réseaux sociaux et qui se poursuit.
Il n'y a aucun signe de décroissance à ce jour. Au contraire, ça se structure. En fait, par exemple, il y a des hameaux complètement isolés qui s'appellent Casterino, qui a eu sa route complètement défoncée et qui ne sera pas rétablie avant certainement 2 ou 3 ans. Eh bien, il y a des chantiers solidaires qui s'y passent. Il y a eu 15 jours sur place pour aider des gens à nettoyer leur maison, à nettoyer les jardins, ou là où plein de cailloux sont venus détruire les pelouses. Donc non, mon avis, ça ne faiblira pas.
Bonjour, bienvenue sur Radio Tout-Terrain, une radio en roue libre dans la vallée de la Roya.
Installée dans la vallée depuis 1 an, avec 7 camarades, Léa, 28 ans, travaille dans la mise en scène et le théâtre. Dès le mois de novembre 2020, elle lance une radio locale pour faciliter la communication entre les habitants de la vallée et mettre en valeur les initiatives citoyennes.
Le mois qui a succédé à la tempête, enfin moi j'ai vraiment l'impression d'être dans un laboratoire en fait, au niveau humain surtout. Il se passait beaucoup de choses, c'était très solidaire. On avait l'impression aussi que sur un territoire on repartait à zéro et il y avait aussi un côté un peu excitant là-dedans, en tout cas pour une personne qui vient d'arriver. Cette énergie de vie c'était aussi pour pas se laisser que ça déteigne quoi, enfin... Et d'ailleurs, nous, on le sent aussi dans la manière dont les gens ils nous disent « c'est bien que vous soyez ici, vous allez rester ». C'est très particulier, cette dynamique de territoire où on a envie que tu sois là, quoi.
Comme Léa, de nouveaux habitants continuent de s'installer dans la Roya en dépit des obstacles, parfois après avoir découvert la vallée à la faveur d'un chantier solidaire. Si la menace constante du dépeuplement et des fermetures de classes reste bien réelle, ces nouvelles arrivées sont une source d'espoir pour l'avenir de la vallée, veut croire Sylvia Gossman, habitant d'un hameau à côté de Breil-sur-Roya et membre de Remontons la Roya.
Au fur et à mesure qu'on avance dans la reconstruction, il y aura des pionniers qui vont arriver. Il y aura des gens qui vont apprécier le fait qu'il y a pas mal de choses à reconstruire, que les prix de l'immobilier sont relativement bas. Je suis optimiste qu'on aura un train qui fonctionnera très régulièrement et rapidement, qui fait bien vivre ici. Hein. Voilà.
Un an après Alex, quelle reconstruction pour la vallée de la Roya. Un grand reportage de Pauline Bandelier, réalisation Laurie Plisson.